Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Salut l'équipe, après Gilbert Arenas, maintenant je l'appelle Gilbert, hein. C'est Paul Pierce qui vient, nous Européens, nous Français, nous faire passer pour des fragiles. Et ça pique autant que le Hennessy coule dans les veines de Paul Pierce depuis qu'il a pris sa retraite. Encore plus piquant quand ça vient d'un mec qui doit croire que la capitale de la France, c'est Madrid. Rappelons quand même que Nikola Jokic chie sur la Ligue depuis 3 ans et que Luka Doncic pisse sur tous les supposés bons défenseurs américains. D'ailleurs, en parlant de défense, cette saison, le meilleur défenseur de l'année devrait être français. Il est bon aussi de rappeler que Team USA, les tough guys américains, ne sont pas champions du monde. Alors je m'interroge, mon Polo, qu'essaies-tu vraiment de nous dire? Et puis si ta mémoire est sélective, mon Polo, la mienne aussi peut l'être. Il me semble que tu es à l'heure actuelle le seul MVP des finales à être sorti sur un fauteuil roulant après un P mal maîtrisé. Caca culotte, ça fait pas très crédible pour juger de qui est soft et de qui ne l'est pas. Mais je t'aime bien quand même, mon Polo. Même si tes avis sur le basket français et le basket européen, c'est comme Inès Reg et Natacha Saint-Pierre, je m'en branle. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le first des shows. Qui sera au play-in? Qui sera en play-off? Qui sera MVP? Qui sera en vacances dans quelques jours? Certainement pas nous. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau first des shows avec mon duo, pas de saumon Gravlax, mais mon duo de Thomas. Comment ça va les garçons?
Oh, je serais pas contre là, il y a un petit filet de saumon Gravlax. C'est peut-être ça qu'on va manger après.
Non, mais surtout, je pense qu'un jour il faut qu'on se fasse un concept d'émission où on parle basket et on graille en même temps. C'est très compliqué de manger en même temps.
Alors, on peut faire l'inverse, sinon on joue au basket et on parle de bouffe en même temps.
Il
a eu du mal,
mais joue au basket en même temps.
Ça. Non, c'était juste une blague, on va jamais faire ça. Bonjour Thomas Larocchi, si je
veux que ça va. Une blague, c'est qu'elle soit marrante. Comment ça va?
Ça démarre bien ici,
toujours. On revient de Séoul 88, là.
C'est Atlanta 96 plutôt.
Non, c'est Séoul 88, je reconnais. Bah, vu ton âge, qu'est-ce qui t'arrive là?
J'aime pas.
Ah d'accord, très bien.
Thomas, on va commencer avec une news. Tu es blessé, le peuple veut savoir. Qu'est-ce que fin de saison, comment ça se passe? Tu vas pas pouvoir jouer le Final Four et défendre sur Caitlin Clark?
Ah écoute,
un moment, vaut mieux te blesser pour défendre sur Caitlin
Clark. C'est compliqué cette fin de saison, on a validé notre maintien là. Pas grâce à nous, parce qu'on a pris 30.
Mais c'est sûr que vous avez perdu 30.
À moins que derrière nous, ils fassent 4-4 et nous 0-4. C'est quasiment fait, on va dire.
On a 4 matchs d'avance donc sur le premier relégable. Donc il faudrait qu'ils fassent 4-4. En général, quand tu es premier relégable, à ce moment de la saison, on sait pas. Mais on sait jamais. Il faudrait faire 0. Et nous, il faudrait faire 0-4.
Voilà. Et donc, on a pris 30, pas bravo.
C'est pas encore fait.
Et petit claquage au mollet, dernier quart.
Caquage.
Donc voilà, écoute, ça a pété sur le mollet. J'ai pas fait de test, mais je suis médecin un peu. J'ai fait quelques années de médecine.
Combien de temps la disponibilité?
J'ai regardé sur Internet, c'était 3 semaines.
Doctolib.
C'est ça. Non, vraiment, j'ai regardé 2-3 semaines, ça va.
Ça dépend si c'est une déchirure, du gras
et
tout.
Ça va un peu mieux, la chance. Tu sais, moi, je récupère très vite, puis je suis capable de jouer blessé. Ça me dérange pas.
Ok, Michel Simès, on fait ça. Comment ça va, mon Toto, la forme?
Ça va, moi aussi, je me suis fait un claquage. Je suis revenu au basket, je suis content. Je me suis pas reblessé parce que c'est ça, les trucs musculaires, là. T'as tellement peur de trop péter.
T'es jeune encore, toi.
De moins en moins.
Il est jeune, mais il a brûlé la vie par les deux bouts quand même. Il
fait 10 ans que je joue plus au basket.
Ouais, c'est ça. Il a 34 ans officiellement, mais son corps, il est ressenti 76.
J'imagine.
Si tu m'avais vu me lever ce matin, je pense que tu aurais dit oui, en effet, 77 même.
Je t'ai vu hier à la houle, ça m'a suffi. Bah.
Wow, ok.
Il est beau comme un cœur.
T'es exceptionnel apparemment. Un petit mot à dire, ça
peut être. Non. Vous pouvez vous connecter sur
Quel modeste, quel modeste.
Ben non, écoute, on se remet en forme et donc ça se voit dans le basket. On est bien en ce moment, mais il y a des revanches chaque semaine, ça qui est intéressant. Et je connais mon Toto, il va revenir bien énervé la semaine prochaine. On a des annonces à vous faire comme d'habitude. Dimanche, rendez-vous, c'est ça déjà qui est très important. Dimanche, 18h30. Barça, Real, c'est le classico. On va se régaler. Le Barça de Ricky Rubio qui reçoit le Real Madrid, entre autres de Gershon Yabusele. On avait fait la Copa del Rey, tous les trois d'ailleurs, avec Tom Seravino. Et pour vous donner encore l'eau à la bouche, on a le PAD ou pas? J'ai un petit doute. On l'a ou pas? On l'a. Ben voilà, allez, pour vous donner rendez-vous, pardon, pour vous donner envie, voilà à quoi ça va ressembler.
Moi, je veux que Jabari Parker.
Oh là là, mais attends!
Gershon Yabouzélé à 3 points. Campazzo, oh la porte de phrase.
Fourier qui retrouve.
Ouais. Et le alley-oop, la spéciale, la connexion.
Un bon vieux Real Barça pour terminer le week-end. Rendez-vous dimanche 18h30 sur la chaîne YouTube et la chaîne Twitch. C'est évidemment gratos, les potos, soyez avec nous dans les commentaires. On va passer un super dimanche. On vous rappelle que toutes les émissions sont toujours et encore disponibles en podcast et ça marche de mieux en mieux pour le plus grand plaisir dans notre polo national. Demain, vendredi, le retour d'une émission qui vous tenait à cœur, le retour des émissions de Balin. Le foot est de retour sur First Team avec un nouveau nom. On vous dit rien. Donc, en tout cas, rendez-vous demain pour le retour de l'émission foot chez la First Team. On va se régaler, Thomas.
Oui, absolument. On va faire un retour européen puisqu'on va parler du PSG-Barça de la semaine prochaine et du
Marseille-Benfica.
Eh ben oui, c'est toi qui vais le dire. Moi, tu sais que j'ai pas le droit de le dire, sinon je brûle.
C'est vrai.
Je brûle.
Okay,
ouais, en fait, deux émissions, vendredi et dimanche pour les diffusions. Voilà.
Très bien. Donc, ça bien avec nous pour le retour du foot. On va bien se marrer avec un nouveau présentateur qu'on va lancer. Je vous cache pas qu'on est un petit peu ému. Hein. On l'a vu grandir, le petit. Incroyable. Allez, le sommaire de l'émission parce qu'on est quand même là pour parler d'abord de NBA, les news avec notamment le retour de Joel Embiid et la retraite de Rajon Rondo. On aura d'autres petites news aussi à faire. On fera un grand débat autour de Luka Doncic, élu joueur du mois de mars. Il fait une fin de saison exceptionnelle collectivement et individuellement. Peut-il rafler dans cette dernière ligne droite le titre de MVP? On fera une palette ultra intéressante cette semaine sur la défense des Celtics et toutes les différentes options et choix de Joe Mazzulla pour essayer d'être l'une des meilleures défenses NBA actuelles, mais surtout une défense championne NBA. C'est ça qui va nous intéresser. Et on finira par l'exercice où je brille autant qu'à l'Oops Factory, c'est le quiz. Oui, je me la raconte aujourd'hui parce que je suis en pleine bourre malgré le temps pourri. On est prêts les garçons?
Tout à fait, on est chaud.
Allez, parti pour les news. C'était pas prévu, mais on va quand même dire un petit mot d'un mec qui met 50 points NBA. Malachi Flynn qui a mis 50 hier avec les Detroit Pistons face à Atlanta. Ce matin, je me suis réveillé, c'est quand même un truc improbable, les gars, rapidement.
T'as rafraîchi la page de trois fois.
Voir un joueur comme ça, un petit peu random, mettre 50, bon, c'est la NBA d'aujourd'hui.
Bah, ça prouve encore une fois, il tourne à 5 points par match, et on en a souvent parlé, bah, même des 11e, 12e hommes, enfin, lui, il joue un petit peu, hein, mais ils ont tellement de talent, il y a tellement de talent NBA individuellement que sur des matchs comme ça, si on leur laisse un peu d'espace, surtout pour des shooters, bah, ils sont capables de faire claquer, hein.
Ouais, c'est clair. Le gars a été transféré deux fois dans l'année. C'est un joueur qu'on connaît depuis pas mal de temps, qui a jamais eu vraiment sa chance. Il sort du banc. Ils sont amenés de 20 points à Atlanta, qui est clairement une meilleure équipe. Il lâche 50, dont je sais même pas combien il met, peut-être 25 ou 30 dans le
jeu. Il a lâché un marron,
le mec. Incroyable, sur un dernier layup.
Des grands joueurs qui ont jamais mis 50.
Ouais, c'est clair.
Complètement fou. On sait que la fin de saison, il y a souvent des cartons.
La stat, c'est que, donc, Malachi Flynn a mis 50 points avant Shai Gilgeous-Alexander, par exemple, voilà. Tu vois.
Ça, c'est incroyable.
Ça, c'est des trucs. C'est des stats un peu folles.
Bravo à lui, en tout cas.
Bravo à lui. Allez, on va enchaîner sur les news plus officielles, parce que c'était pas prévu qu'on parle de Malachi Flynn. C'est le retour, notamment, de Joel Embiid. Ça, par contre, ça nous a fait parler. Retour, donc, après 29 matchs d'absence. Son dernier match, c'était le 31 janvier 2024. Et Joel Embiid, il est revenu avec des bonnes stats et une belle victoire, notamment, face au Thunder, Thomas.
Ouais, ça, c'est la grosse info, hein. D'abord, qu'il puisse rejouer 28-29 minutes sur ce match-là et qu'il permette à son équipe de réenclencher. Hein. On sait qu'ils ont vraiment galéré, les Sixers, ces dernières semaines, derniers mois. Il revient dans les spots qu'il aime, du mid-range, du pick and roll, très fort aussi pour provoquer des fautes. J'ai vu pas mal de gens être frustrés de revoir Joel Embiid provoquer des fautes, être bien sifflé par les arbitres. En tout cas, ça donne 12 sur 12 au lancer franc et une importance aussi dans la fin de match. Il fait interception, il court pour aller gagner cette rencontre. Important le retour à 2 semaines des playoffs. On s'en rapproche.
Ouais, 2 semaines des playoffs, on se souvient, Thomas Laroukis, quand Joel Embiid se blesse, c'est une équipe de top de la conférence Est. Avec l'absence 29 matchs Joel Embiid, c'est devenu une équipe de play-in. Qu'est-ce que tu attends de cette fin de saison quand on voit, alors que là, on voit le bilan avec et sans, qu'est-ce que tu attends de cette fin de saison et de cette post-season, surtout des Sixers?
Ben, il faut qu'ils essayent de faire un petit run, surtout avec lui de retour. Et on connaît la NBA, on sait que contrairement en Europe, quand les mecs reviennent, surtout les superstars, c'est qu'ils sont à 100% en général, surtout les gabarits comme lui. Et là, ben, c'est inquiétant pour la conférence Est. Hein. Ceux qui vont finir peut-être 3e, 4e peuvent se toper un Sixers au premier tour. à voir s'il arrive à continuer ses pertes, mais il m'a l'air plutôt en forme. Maintenant, à lui de retrouver le rythme sur la fin de saison pour tout démonter en play-off, mais c'est inquiétant pour les autres équipes.
C'est clair que les Sixers, se taper les Sixers au premier tour, ça serait quand même pas cadeau. Hein.
Pour l'instant, ils sont 7e, donc il y a un play-in à jouer a priori. Mais t'as raison, hein, t'es 2e, ça peut être Sixers, Bucks, premier tour des play-offs. Bah, c'est ce qu'on a envie de voir.
Et, et les Bucks, quand ils jouent comme ça, des outsiders un peu poil à gratter au premier tour, ça leur rend pas très bien. On a essayé de se projeter hier dans l'émission Clutch, pardon Thomas, dans l'émission Clutch sur à quoi pourrait ressembler la saison des Sixers en playoff, tout quoi, les Sixers en playoff, je vais y arriver, pardon. Et puis la discussion a un petit peu dérapé avec Rémi Reversan hier sur Clutch.
Et en playoff, est-ce qu'il va être capable de vaincre aussi le signe indien? On sait qu'en playoff, quand même, c'est pas là où il a montré les meilleures choses.
Exceptionnel commentaire.
Et c'est le rêve de boomer total.
Ah ouais, complètement boomer,
Les jeunes, on va vous perdre, mais Embiid en playoff, c'est Jim avec Nadia dans American Pie.
Oh là, gros. Allez, hop, ça c'est t-shirt demain dans la fin des shows.
L'une des meilleures scènes de l'histoire du cinéma.
Meilleur, moi j'appelle ça, j'avais bien l'aide, je vais pas te mentir.
Nadia qui a fini avec le Charminator.
Tout à fait. Tout à fait.
Et les gamins. Voilà.
T'as un petit air au Charminator.
Bon, on va bien t'en remplir, par contre. Je te déteste.
L'insulte. Elle est sortie du fond du cul.
Non, mais Charminator.
Oh non, attends. Charminator, il est terrible, gros.
Non, mais d'accord.
Wow.
Ah, ce bon vieux Charminator qui arrivera à ses fins quand même. Hein, et j'en veux toujours à Jim, énormément.
Ah, clairement.
D'avoir laissé faire ça,
c'est terrible.
C'est un crime contre l'humanité, Charminator. Mais bon.
Chacun doit avoir sa chance.
Ah, ben lui, il a eu sa chance. Il a saisi. Hein. Bravo. Quand on a comme ça, on tombe sur le bon public. On peut. Tout est possible. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme plafond de verre à cette équipe des Sixers? On peut leur en mettre un d'ailleurs?
Non, aucun. Si Embiid revient à 100%, voilà, il y a eu des joueurs qui ont pris des minutes, qui ont pris confiance aussi pendant son absence. Kelly Oubre, notamment, et Nicolas Batum aussi, qui a montré qu'il était encore bien présent.
Il y a eu, en son absence, l'arrivée de Kyle Lowry, l'arrivée de Buddy Hield. C'est des joueurs qui n'ont pas joué avec Joel Embiid.
Ouais, je suis d'accord avec vous. Après, je vous trouve plutôt optimiste pour une équipe qui a été bonne, mais il y a plus de 2 mois. Tout le monde doit se réhabituer à rejouer avec Joel Embiid, sachant qu'il y a eu beaucoup de... Vous avez parlé des bonnes choses, mais aussi beaucoup de méformes. Il y a eu des blessés. Tharise Maxey n'est pas là en ce moment. Donc, le laps de temps pour retrouver les certitudes avant des matchs... Enfin, déjà un match de play-in ou des matchs de play-in, puis ensuite un premier tour, parce que d'ailleurs, on a dit les Bucks, ça peut être aussi contre les Celtics, ils sont en 8e. Donc, il y a quand même beaucoup de... Vous êtes très optimiste. Moi, j'ai très peu d'espoir quant aux Sixers qui passent des tours et qui font le run tant rêvé pour Joel Embiid.
Ah, mais moi, je te rejoins complètement là-dessus. Hein. Je le répète, on l'a dit tout à l'heure.
Mais optimiste,
ils étaient 3e, potentiellement pour être 2e de la conférence Est, c'est redevenu une équipe de play-in. Alors, Joel Embiid va un peu changer le paysage, mais il y a un vécu collectif qui est beaucoup trop faible pour essayer de faire un run.
En fait, leur rêve, c'est de faire ce qu'ont fait les Lakers l'année dernière, faire un play-in, avoir une forte défense, une hiérarchie, des mecs à peu près en forme.
Ils ont joué, ensemble un peu les Lakers. Sur 2 mois, mais ils ont eu un vécu.
Miami aussi.
Tu dis, je suis optimiste, mais c'est juste que forcément, et le retour de Embiid, ça donne de l'espoir à la franchise quand on sait à quel point il peut être dominant des deux côtés du terrain. On peut tout se permettre quand un bid en.
T'as raison, t'as le droit de rêver. Rêvons.
Rêvons plus grand.
Mais bon, il y en a un qui va plus rêver, en tout cas en NBA, c'est Rajon Rondo, puisqu'on ne reverra plus sur les parquets. Son dernier match remonte quand même à avril 2022. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu Rajon Rondo. Et cette semaine, il a décidé d'officialiser sa retraite. Thomas Larouki, je sais que c'est un joueur que t'aimes beaucoup, Rajon Rondo.
Ouais, joueur exceptionnel, meneur, un vrai maestro, comme on en fait rarement en ce moment. Et il fait partie de ces quelques joueurs, je pense, qui ont une fin de carrière un peu difficile parce que plus intelligent que les coachs, plus tacticien, connaissant mieux le jeu. Et parfois, c'est compliqué. Je pense qu'il est parti en conflit plusieurs fois parce que lui, il voyait pas les choses de la même manière. Et quand on se rappelle du titre des Celtics, c'est une masterclass complète hein, dans la gestion, comment il décale Ray Allen, Paul Pierce, etc. Il mène cette équipe du début à la fin. Honnêtement, il est monstrueux à son prime. Il fait partie des plus grands meneurs.
Thomas, j'adore l'idée de ce que tu viens de dire, c'est que c'est un joueur qui a plus de QI que les coachs.
Ouais, j'adore moi aussi, et quand t'es dans cette position-là, en général, ça se passe très mal, hein, tout simplement, et on aime bien dire que les stars doivent trouver des coachs, doivent bien s'entendre pour établir des tactiques, etc. Lui, c'est vrai que t'as raison, sur la fin, c'était plus compliqué, parce que tu vieillis déjà et que tes capacités sont moindres par rapport à ton prime, et donc faut arriver à l'accepter, mais en plus, tu proposes des trucs pas suivis par le coaching staff, ça doit être très dur à vivre. Bon, en tout cas, il a fait une bête de carrière, 16 saisons, deux fois champion avec les Celtics et les Lakers, avec
Clive Lovelett.
Clive Lovelett, le Love Famer, incroyable, la famille, des joutes extraordinaires de playoff, on le voit là avec Kobe. C'est un joueur qui a marqué la décennie des, allez, de fin 2000, 2010, il était clairement parmi les meilleurs, si ce n'est le meilleur à un moment donné. Meneur de jeu, bien sûr.
Je t'en prie.
Ça me fait rigoler parce qu'à l'époque, c'était Doc Rivers, le coach des Celtics. Et ça ne m'étonne pas que ce soit très bien passé puisque Rivers, il a dû se dire « Attends, le mec, il gère bien le jeu, j'ai rien à proposer, moi. J'ai juste à faire des petites réunions, sortir quelques proverbes, à ramener les gars et c'est bon, ça va bien se passer. »
Les mecs, c'était coaché par Platon, quoi.
Non, mais je te jure, quand tu regardais les matchs, c'était incroyable ce qu'il proposait Rondo. Tu sentais que c'était lui le maître de l'équipe et qui dirigeait tous les autres, quoi.
Sachant que les Celtics, c'était une équipe qui jouait vraiment bien et tactiquement, ils ont un nombre de systèmes de dernière seconde pour Ray Allen, pour Paul Pierce, pour aller gagner des matchs, moi, qui me reste vraiment en mémoire. C'est une des équipes, bon, rivales par rapport à celle que je kiffais, mais c'était obligé de dire ouais, il faut bravo. Kiffer. Bravo, les gars. Quand il y a quelqu'un qui est meilleur, qui te propose quelque chose de très fort, faut te dire bravo, comme j'ai fait hier. Ouais.
Et puis Rajon Rondo, tu sais, on parle beaucoup de joueurs de saison régulière qui s'effondrent un petit peu en playoff. Lui, c'est tout l'inverse. C'était un joueur de playoff avec les Celtics. Alors, oui, il a le titre de 2008, mais il y a toutes les autres campagnes de playoff où ils vont pas au bout. Il est quand même magnifique. Le run de 2010, il est incroyable. Il y a aussi, on se souvient avec les Pelicans associés à Jrue Holiday quand ils éteignent McCollum et Lillard. C'est fantastique. Le run qui dure malheureusement que deux matchs, où ils font bégayer Boston, ils mènent 2-0 quand il est à Chicago. Voilà, c'est aussi un joueur qui se sublime en playoff et qui sublimait les équipes en playoff. Donc voilà, Rajon Rondo, bravo pour ta carrière.
Futur Hall of Famer, bien sûr.
Futur Hall of Famer, en endupé une seconde, ben comme la transition est toute faite, comme Vince Carter et Chauncey Billups, qui, Thomas, risquent d'être. Sont dans le ballotage favorable cette saison.
Normalement, ce seront eux. Hein. Vous savez que vous y avez des candidatures. Tu peux être first ballot, donc sur ta première tentative pour y aller. C'est pas encore officiel, mais bon, c'est Shams qui l'a dit, Woj, etc. Donc normalement, c'est plutôt safe. Deux joueurs aux carrières différentes. Hein. Ils vont être intronisés pour deux trucs différents. Billups, on peut commencer pour faire l'affiliation avec Rajon Rondo, un des meilleurs meneurs de la conférence Est, MVP des finales. L'âme aussi d'une équipe qui était championne, bête de joueur de cette époque 2000, dur, etc. Il nous a fait kiffer pour
un chef,
un vrai chef. Voilà, très différent de Rajon Rondo, hein, meilleur shooter sans aucun doute, et Mr. Big Shot lui aussi, vrai gars.
C'est vraiment pour moi le meneur. Si on doit me donner une définition d'un meneur, c'est lui. Parce que bon, il y a les Magic, évidemment, mais c'était des meneurs de 2m8. Steph Curry, c'est un shooter. Jason Kidd était passeur, organisateur fantastique, mais qui a eu un tir sur la fin. Tous les mecs que je viens de citer, c'est des meilleurs meneurs que Chauncey Billups. Mais pour moi, Chauncey Billups, c'est vraiment la définition du meneur de jeu. Fort défenseur, dribble parfait, bon passeur, clutch, met la main sur la balle, contrôle le tempo. C'est vraiment le cliché du très bon meneur avec qui on a tous envie de jouer.
Ouais, sa plus grande force presque, c'était le choisir ses moments pour prendre les tirs importants. Il était capable vraiment pendant limite deux quarts temps de pas prendre un tir, faire jouer ses coéquipiers. Mais dès que la fin de match arrivait, ben il arrivait à élever son niveau de jeu et il avait une grosse perte. Voilà.
Et on n'oublie pas que c'est grâce à lui qu'Armelo Anthony fait une finale de conférence avec Denver.
C'est vrai.
C'est quand il arrive et qu'ils ont une bête d'équipe, hein, Kevin Martin, etc., etc. Il stabilise émotionnellement une équipe qui en avait besoin et qui était grave portée sur l'attaque avant l'arrivée d'Iverson. J'étais moins bien après. Hein.
C'est qui le meilleur meneur avec qui t'es joué, toi? Justement, un papa un peu comme ça, là.
Moi, j'ai souvent eu des meneurs assez bourbiers, des Américains.
Il y a bien un mec quand même qui sort du lot.
Franchement, c'était dur. J'en parlais.
Il n'est pas obligé d'être américain.
Ouais, mais en français, tu sais, il n'y a pas beaucoup de meneurs titulaires français en Pro A. Avec Antonetto sur la deuxième partie de saison à Vichy, c'était très bien passé. Voilà, moi, j'avais fait une bonne. Sinon, ça serait le virus.
Pas Antoine, hein. C'est pas Antoine Aito à Vichy.
De quoi?
Tu dis, ah oui, Antoine Aito, pardon.
Antonetto,
pardon.
À Vichy.
Je sais encore. Duo. Je puis dire. Non, Antoine Ayto, c'est vrai.
Je pense à Dick et même Tomoué.
Sinon, je pense à John Linehan.
Ah oui, j'espère quand même.
Mais c'était pas un grand passeur, tu vois.
Ouais,
pas...
mais bon, t'as plein de qualités qui te font de toi un joueur de basket.
Ouais, mais j'ai jamais eu ce meneur un peu qui vraiment
académique,
te trouve... Académique, tu sors de l'écran, t'as la balle dans le timing pour shooter. Tu sais, tu prends double stagger, tu veux rouler, t'as pas la balle derrière, c'est qui t'empêche de...
C'est pour ça que t'as pas fait la caractéristique. Ils t'ont jamais mis un vrai... Tu aurais dû jouer avec Chauncey Billups, gros.
Pas que, mais c'est vrai que ça... Je réfléchis là parce que je veux pas vexer quelqu'un, mais non, j'ai eu Dragan Lukowski, en Pro B à Limoges, mais qui s'est blessé. On avait fait une pré-saison de malade tous les deux, vraiment. On se tendait à merveille. Et il s'est blessé pas mal de temps sur la saison.
Donc, t'as un point commun avec Carmelo Anthony, c'est que tu aurais dû jouer avec, avec John Sibilaf, même s'il se retrouvait à Denver. Mais je parlais époque Détroit. Donc, voilà, les deux donc, vont aller au Hall of Fame. Et c'est plutôt une suite logique. On va parler aussi de Vince Carter, qui est Jean-Michel Longévité. 22 saisons en NBA, c'est un record historique. 8 All-Stars. Et puis, il y a les stats, c'est un joueur qu'on a tendance à oublier dans cette ère des arrières, qui ont gagné des titres de meilleur scoreur, qui ont gagné des titres de MVP et de titres de champion. Mais Vince Carter, il a marqué son époque, Thomas.
Ouais, absolument. T-Mac a été intronisé l'année dernière, ou il y a 2 ans maintenant. Je sais qu'il y a souvent des débats sur oui, non, faut-il les mettre et tout ça. Vince Carter, c'est un Hall of Famer sans aucun doute. La longévité, t'as raison. Mais c'est surtout un joueur formidable. Bien sûr, le meilleur dunker en match. Pour moi, il n'y a aucun doute sur cette question-là. Mais c'était un bête de score, bête de joueur qui regardait tous les joueurs les plus talentueux dans les yeux, bête de shooter. On pense à lui beaucoup pour le dunk, mais c'est un super shooter,
joueur très complet.
Super joueur de 1 contre 1, absolument scoreur très complet. Pour moi, c'est un Hall of Famer sans aucun doute.
Ouais, clairement. Après, on est tous, je pense, un peu déçus. On aurait aimé peut-être qu'à un moment donné, déjà, il a un titre et qu'il arrive à amener une équipe jusqu'au bout. Après, il l'a fait avec les Nets, mais compliqué quand t'affrontes les Lakers de Shaq et tout.
Il était en dessous, quoi.
Il va pas en finale avec les Nets.
Non.
Il va pas en finale avec les Nets. Il a le run avec les Raptors. Il perd avec ce match-set incroyable, son histoire d'aller à North Carolina. Donc, c'est un rendez-vous un peu manqué là-dessus. Et puis ensuite, il vient aux Nets, justement, qui veulent retrouver les finales avec Jason Kidd. Ça marche pas. C'est d'ailleurs les Pistons hein, qui les tapent à ce moment-là. Mais c'était c'est un joueur qui m'a
moi pour la petite anecdote, c'est la première vidéo que j'ai téléchargée à l'époque sur mon gros ordi quand j'habitais à Pau sur NBA.com, qui avait mis toute la nuit à se télécharger son premier dunk. C'est vrai à l'époque
pour télécharger
20 secondes ça prenait 4-5 heures quoi. Et c'était son dunk en arrière, là, quand il entre en NBA contre les Pacers baseline. Je l'avais regardé le matin, j'étais tout content, j'avais découvert ce joueur. C'était incroyable, quoi.
Il nous a et, impression et juste visuelle incroyable.
Une petite question pour vous. Est-ce qu'il y a, comment dire, un truc automatique qui fait qu'on rentre au Hall of Fame, par exemple? Pour moi, c'est MVP du final, t'es Hall of Fame. MVP de la Ligue, t'es Hall of Fame.
Et trophée individuel.
Ouais, trophée individuel. Meilleur défenseur.
Oui.
Ce sera pas loin.
Après, tu vois, Boris, il a un titre de champion, il est MIP. MIP ou Boris, hein?
Ouais.
Est-ce qu'il va être Hall of Fame? Je pense pas.
Ouais, mais j'ai pas dit titre de champion, j'ai dit MVP des finales.
Ouais, oui,
MVP,
d'accord, mais toi, tu parlais de titres individuels.
Mais c'est pas les titres majeurs. Bobby Simmons, il va pas y aller, t'as raison.
D'accord.
Pour les titres majeurs, je
parle. Les titres majeurs individuels.
Meilleur défenseur, MVP.
Surtout si tu as la longévité.
Non, parce que je pensais à Derrick Rose, tu vois, la carrière est courte, mais MVP, quoi.
Et plus jeune MVP, c'est possible. C'est possible que Derrick Rose y soit, et on en fera d'ailleurs une news, voire un débat, parce que la carrière de Derrick Rose peut mériter un débat. On reste un petit peu aux États-Unis avant de revenir en Europe. Ce week-end, c'est les Final Fort universitaire, filles et garçons. Et on va forcément se régaler. Thomas, tu nous prends un petit peu le plateau et il y a d'ailleurs des facs qui vont faire le doublé.
Eh ben, il y en a deux, ouais, absolument. UConn, Alabama et NC State Purdue qui est le grand favori. Et ça, c'est du côté garçon. Et donc, UConn, Iowa et South Carolina et NC State. Donc, vous aurez les deux facs, NC State et UConn, qui seront représentés par les filles et les garçons. Et la grosse info, bien sûr, de ce tournoi de NCS, c'est que tout le monde a pu se regarder. Le Elite Eight féminin avec des matchs exceptionnels dont notre copine qui Caitlin Clark qui a mis 41 points, 12 passes, 9 rebonds, enfin 7 rebonds et qui est la plus grosse star du marché universitaire aujourd'hui. Et ça, c'est quand même la grosse info 2024, c'est que c'est une fille qui domine et de loin le domaine médiatique aux États-Unis.
Ouais,
la fac.
Et c'est mérité, bien sûr. T'as regardé un petit peu les highlights, Tom,
c'est incroyable. Elle est tellement forte. Mais même toutes les joueuses, il y en a plein qui cartonnent là. Mais un engouement pour ces matchs pour filles, on en parlait la dernière fois, c'est exceptionnel. Après, les réseaux sociaux aujourd'hui, ça aide. Hein, forcément, il y a du storytelling sur tout ça. Mais elle balance à 3 points, c'est impressionnant. Quand même.
C'est plus le match, là, il a été contre USC. LSU, de Angel Reese, a été plus regardé que les finales NBA. Comme ça vous donne quand même un ordre d'idée sur l'impact du tournoi NCAA déjà aux États-Unis, mais encore plus de ce tournoi féminin cette année. Et t'avais fait un édito très juste là, il y a quelques semaines, Erwan. Franchement, cette fille, elle est juste hors norme et on a hâte de la voir en WNBA parce qu'elle elle s'est déclarée pour la draft pour cet été. Ça va être fantastique.
Comme Angel Reese aussi.
Tout à fait.
Qui a dit qu'elle allait rejoindre la WNBA. Donc voilà, ça laisse de belles heures et un joli futur à cette ligue qui est la WNBA qui se développe de mieux en mieux saison après saison. Retour en France puisque j'ai envie de chanter presque la Marseillaise parce que la finale d'EuroCup va opposer deux clubs français. C'est quand même assez rare pour être souligné. Le Paris Basketball donc affrontera la JL Bourg qui a eu besoin de trois matchs pour éliminer le Beşiktaş Istanbul, un match hier, un match 3, où il a fallu sortir des clamolettes, hein, une belle partie de tartine, et finalement les Turcs ont complètement explosé dans le quatrième quart-temps, et donc les hommes de Freddy Fotoux vont retrouver le Paris Basketball. C'est quand même fou de voir deux clubs comme ça de Français en finale d'EuroCup.
Ouais, incroyable. Franchement, incroyable. Félicitations aux deux équipes. On osait imaginer après la saison régulière que les deux équipes ont fini en tête de chaque groupe. Là, on a eu simplement des matchs parfaits, hein, des victoires à domicile devant de bons publics avec une bête d'ambiance hier. Ça a vraiment bien fini. On sent que ce club de la JL Bourg vit très très bien. On le sait, mais ça c'est un accomplissement de malade. J'ai juste hâte. Hein, ça va être mardi prochain, mardi, vendredi, mercredi. Normalement, s'il y a un troisième match d'appui à Paris, on va pouvoir nous y aller et suivre ces matchs exceptionnels parce que ça, en fait, c'est juste un kiff de voir nos équipes françaises performer en compétition européenne. Ouais. Ça marche pour Monaco aussi en Euroleague.
Ouais. Hein. En Euroleague, bien sûr.
C'est une super nouvelle pour le basket français déjà et il y aura une troisième équipe en Euroleague.
Ouais, oh là là, moi je m'avance pas là-dessus. Hein.
Je pense que si c'est Paris Basketball, ils vont la prendre parce que c'est objectif. Bourg, je pense qu'il y a moins qu'ils fassent comme Grand Canaria.
Bon, ça on verra, mais en tout cas, ça montre que le basket français prend une bonne direction. On l'a vu déjà l'année dernière. On est en train de monter petit à petit. Et aujourd'hui, est-ce qu'on serait pas la deuxième meilleure ligue d'Europe derrière l'Espagne, clairement.
Avec la Turquie, peut-être
Mais non, je pense que nous, on est devant la Turquie. La Turquie,
en tout cas, tapé Beşiktaş.
Ouais, voilà, tu sais, la Turquie, ils ont beaucoup d'argent et ça défend pas trop. On voit tous les joueurs qui vont là-bas, ils ont des stats incroyables et aujourd'hui, le basket français se porte bien et on voit des super matchs. En plus, franchement, Bourg, il régale à voir jouer. Hein. Il y a du talent, il y a du spectacle. Paris Basket aussi, ça va être une finale incroyable.
Et il y a des Français.
Toi qui as joué des Coupes d'Europe, tu es même allé en finale avec
Chouli. Finale, Euro Challenge.
Un petit peu de commencer en parallèle du championnat, d'avoir cet objectif-là, d'aller loin dans une Coupe d'Europe. Comment ça se passe au sein d'un groupe? Comment ça peut donner une énergie supplémentaire?
Bah forcément, nous on est content quand on est joueur, ça évite de s'entraîner trop parce que t'as deux matchs par semaine, t'as beaucoup de récup, c'est plus des révisions de système, après tu te maintiens un petit peu. Et après, c'est vrai que ça, t'as cette excitation, surtout que nous à l'époque, on n'était pas bien classé en championnat avec Cholet, mais par contre, on cartonnait en Coupe d'Europe avec Nando De Colo, Rodrigue Beaubois, avec Kevin Serafin. On avait une sacrée équipe. Et on était arrivé jusqu'à cette finale, c'était pas prévu à la base, mais petit à petit on a gravi les étapes et on s'est aperçu qu'on pouvait aller jusqu'au bout. Et après c'est une aventure humaine aussi exceptionnelle, tu vas dans plein de pays, tu vas en Ukraine, en Lettonie, dans des villes que t'aurais jamais visitées, et puis t'arrives là en finale. On a joué à Bologne, c'était une salle de 10 000 personnes dans l'arène là, il y avait Earl Bokins en face, tu vois, il y a des beaux joueurs comme Rashad Griffith, l'intérieur là, un gros Langford aussi à l'aile, voilà, c'était des énormes équipes et franchement c'est des super souvenirs.
Est-ce que t'es obligé de segmenter, tu vois, il y avait vraiment un discours, une équipe à la Coupe d'Europe, une autre pour le championnat, ou bon, ça se mélangeait quand même un petit peu?
Non, ça se mélange, ça va tellement vite, t'as pas trop le temps de réfléchir, tu sais, tu prends les matchs les uns après les autres, comme on dit, et voilà, mais t'es content, tu vois. Après, c'est fatigant, mais quand c'est bien géré avec le préparateur physique, quand la récup elle est bonne, par contre, t'as zéro jour de repos hein, pendant un an, t'as pas le dimanche, t'as pas un lundi, c'était 7 sur 7.
T'es soit au match, soit à l'entraînement, soit dans l'avion, quoi. En gros.
Soit tu fais de la récup, ouais. Soit t'es dans l'avion, t'as vraiment zéro jour pour le coup. Je sais pas si c'est très légal, mais t'as zéro jour.
Avec ce que tu gagnais, franchement, tu peux pas te plaindre.
Je vais y réfléchir, je vais peut-être faire un petit procès.
Oh là 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 là.
Ce sera pas le premier.
Non, tu
parlais de zéro jour de repos et en tout cas de prendre les matchs les uns après les autres. Il y en a un qui prend les matchs les uns après les autres et qui les prend plutôt bien. C'est Lucas Doncic qui est exceptionnel en ce moment, mais peut-il shipper, comme on vous l'a demandé sur les réseaux sociaux, le titre de MVP cette saison? MVP du mois de mars, il va certainement éviter le pay-in à son équipe. Pourquoi pas aller même gratter l'avantage du terrain parce qu'ils sont qu'à deux matchs des Clippers qui sont quatrième. Lucas Doncic réalise une fin de saison exceptionnelle, mais messieurs, peut-il encore être MVP de cette saison 2023-2024?
Non, c'est un gars horrible. Bien sûr qu'il a une chance. On fait ce débat parce que on sent une hype là depuis 2-3 semaines, la série de victoires des Mavs qui permet à tout le monde de comprendre le storytelling qui est en train de d'être
ça,
effectué.
Je crois ça va blaguer.
Terrible, ouais, terrible, ouais, terrible. C'est pas drôle, quoi. C'est à un moment donné, merde. Il y a des vies humaines en jeu.
Ça va, ils sont en proie, ils vont jouer les playoffs.
Tout, tout est bien, bien qui finit bien. Oui,
tout le monde est content. T'as plus besoin de bosser jusqu'à la fin de ta vie.
Ce sera l'occasion d'une émission pour vous expliquer tout ça. Mais bon, c'est pas le moment. Non, je pense qu'il a une chance parce que le trophée de MVP récompense souvent ce qu'on dit le meilleur joueur de la meilleure équipe, mais il peut aussi récompenser simplement le meilleur joueur de la saison. Et Luka fait une saison digne d'être MVP. Quand t'as 34 points de moyenne, t'es pas loin du triple-double, que t'es dans les records en carrière. Voilà, 33,9, ouais, il a un peu baissé, il était 34 hier. 9,2 rebonds, 9,8 passes, 48% au tir, 38% à 3 points, 20 triple-double. Il est juste exceptionnel. Et je pense que le match des 47, là, la semaine dernière face aux Rockets, a remis un petit peu sa candidature en haut de la pile.
Thomas, tu t'en es jamais caché, t'es un grand... On l'est tous, mais toi, t'es...
Ouais, un bandeur, ouais.
T'es un grand fan de... Chacun, c'est beau. Oui. T'es un grand fan de Luka Doncic. On va parler de la concurrence tout à l'heure, mais là, comme ça, pour une première prise de parole sur ce débat-là, comme toi, tu le vois, pour toi, c'est ton MVP cette année ?
Compliqué. Il y a du beau monde. Il y a des gens aussi à récompenser. Il fait un très beau run. Après, est-ce qu'on récompense la saison en entier ou juste la fin de saison ? Forcément, ça marque plus les esprits, les fins de saison. Après, il est dans la discussion. Enfin, voilà, moi, je l'attendais un peu plus tôt dans cette discussion, mais on sait que bon, il y a eu les résultats collectifs, ses attitudes aussi. Je pense à ça. Est-ce que ça va pas peser un peu sur les votes, les attitudes qu'il a aussi, son comportement parfois sur le terrain. Mais clairement, aujourd'hui, voilà, et je pense pour les années à venir, chaque année, il sera dans les candidats pour le MVP.
Thomas, c'est intéressant parce que c'est vrai que, même si c'est presque injuste, mais que les derniers matchs, les dernières semaines dans cette course au MVP, eh ben, elles comptent parfois double. Alors, c'est pas officiel, mais dans les têtes des votants, elles peuvent parfois compter double.
Ben
alors
oui, qu'en fait, c'est
un titre qui doit récompenser mi-octobre, mi-avril.
Et je pense que ça reste ce qu'il se passe, tu vois, dans la tête des votants. On rappelle, hein, c'est 100 journalistes. Donc, il n'y a pas de joueurs, il n'y a pas de copinage. En tout cas, pas censé y en avoir. Donc, quand même, c'est des observateurs aguerris de la NBA. Donc, évidemment que les dernières semaines de ta vie comptent plus que celles d'il y a un an. C'est normal. C'est plus facile de t'en souvenir. C'est aussi plus d'émotion. Plus l'émotion est loin, moins elle compte pour toi. Donc,
peut-être des matchs qui comptent aussi un peu plus.
Il y a aussi un petit peu ça. Donc, on parle souvent de momentum pour les matchs, mais ça marche aussi dans une saison. Et les Mavs ont eu plusieurs momentum, des très positifs. Hein, comme depuis le mois de février, et puis des moments un petit peu de creux, et puis il y avait aussi la revanche de la saison dernière où ils vont même pas au play-in. Donc il y a tout ça à prendre en ligne de compte. Je crois quand même que Luka, quoi qu'il arrive, doit finir podium. Ça, c'est la première chose. On pourrait se poser la question quand tu vois Shea, quand tu vois Yanis, tu mais pourrais te poser
aller,
la question.
On va aller sur la concurrence, c'est très bien.
Ah, tout de suite, ah non, je voulais.
Pardon, parce que t'en parles, j'aime
non,
bien.
Non, je reste sur le podium, c'est-à-dire que, et je rejoins complètement ce que vient de dire Thomas, pour la première fois de sa vie. Il est légitime pour être MVP. Avant, il ne l'était pas.
Pour aller dans ton sens, sur la légitimité d'être MVP, on va voir tout ce qu'il a réalisé cette saison. On a évidemment en mémoire les 73 points face aux Hawks, mais pas que. Troisième meilleur passeur de la Ligue, c'est pas rien. Deuxième meilleur shooter à 3 points pour les paniers réussis. Vous vous rendez compte, avec tous les shooters qu'il y a dans la Ligue, le plus gros total points assists rebonds depuis Karim Abdul-Jabbar. Et donc, c'est celui qui a réalisé le plus de triple-double en 30 points depuis Westbrook. Là, donc,
c'est incroyable.
Alors, certes, je veux bien qu'il y ait le bilan, ça existe et c'est vrai que ça compte énormément. Mais là, on a quand même des statements d'un mec qui peut dire, mais moi, les gars, le trophée, donnez-le-moi.
Ah, mais ça serait pas un vol s'il l'a, parce que le bilan est correct pour son équipe. On sait qu'il y a eu pas mal d'absences aussi de Kyrie, tout ça. Là, depuis qu'ils sont au complet, ça se passe bien. Depuis les trades aussi. Mais moi, là, j'ai regardé son match contre Houston.
C'est incroyable. Disons-le.
Honnêtement, après, on va peut-être me prendre pour un fou, mais peut-être offensivement, c'est peut-être le meilleur joueur de l'histoire.
Positionne là-dedans, toi. Vraiment.
Quand je le vois jouer, il n'y a aucune solution pour l'arrêter. Il shoot à 3, il shoot à 2, il shoot à un pied, il shoot sans les pieds, limite, sans sauter. Il shoot
à la cuillère.
Il shoot à la cuillère. En pénétration, il est trop fort. À la passe, il est trop fort, tu peux pas le trapper. Il trouve toujours la bonne passe. Vraiment, sur chaque action, il trouve une solution. Soit il fait une passe d'aise, soit il décale le mec qui va faire une passe d'aise, soit il va au lancer franc, soit il marque.
Tu sais qui c'est qui
dit pareil? C'est incroyable.
Tu sais qui c'est qui dit quasiment pareil que toi? C'est Greg Popovich, dans une déclaration, mais comme ça, il dit à peu près les mêmes choses. Personne n'a la réponse pour éviter qu'il détruise chaque défense. Je pense qu'il est sous-estimé en tant qu'athlète, ça c'est intéressant, on va y revenir. Mais son intelligence de jeu, sa capacité à prendre la bonne décision dans le bon timing, il voit tout sur le terrain, il peut avoir deux coups d'avance sur tout le monde. J'aimerais qu'on revienne, il y a plusieurs choses à reprendre, mais sur cet athlète sous-coté. Il y a un peu de ça chez Lucas. Il est grand déjà.
Ouais,
c'est un follow.
Merci. Il est très grand.
Mais il est quand même capable d'aller mettre de finir sur des grands et de mettre des dunks.
Popovic avait dit un truc incroyable. C'était au tout début de la carrière de Lucas où on se posait la question de sa taille. Plutôt 2m01, plutôt 2m03, là. Et lui, il avait dit, enfin, qu'il fasse 2m01 ou 2m05, ça va pas l'empêcher de nous casser la gueule. C'était exactement ça. En fait, on s'en fiche de l'envergure, de machin. C'est la manière dont tu vas utiliser ton corps. Et t'as raison. C'est un athlète sous-côté parce que quand tu penses athlète, tu penses courir vite, sauter haut. C'est normal. Mmh. C'est normal. Mais c'est aussi résister au choc.
Dureté.
C'est la dureté, c'est être dans les bons espaces, avoir des changements d'appui. Et là-dedans, avec Nikola Jokic, ils sont complètement hors normes. Ils sont peut-être pas très rapides. Par contre, la gestion des timings est surdimensionnée. Donc, ça en fait des athlètes au moins capables, si ce n'est dominants, quand ils ont balle en main. Donc, je le rejoins complètement. Et puis, ils résistent, quoi. Tu vois, 48 minutes de temps de jeu, des moments hyper charnières dans les fins de match, etc. Ils se cachent jamais. Il se cache jamais. Alors, on pourrait parler de France-Slovénie au JO, mais c'était il y a 2 ans. Non, il y a 3 ans même.
Il s'est pas caché. Il était.
Bah, le deuxième mi-temps, il est cramé, hein.
Il est rouge pivoine. Voilà, c'est pas pareil.
Ah bah, ça fait partie de. Être un athlète ou pas. Oui. D'accord, t'es cramé, Erwan.
Oui, mais être cramé, c'est pas dire se cacher automatiquement.
Bah, à la fin, franchement, deuxième. Je l'ai revu il y a pas longtemps. Il prend pas un tir de la deuxième mi-temps.
Ouais, parce qu'il est cramax.
Ah, ben. C'est quoi la différence?
Bon,
si vous voulez,
on se planquait.
Non, c'est pas dans le sens.
D'accord.
Se planquer, c'est juste qu'il est cramé, qu'il peut plus rien faire. Bref, vous m'avez compris.
C'est vrai que non, mais là-dessus, il a progressé.
Bah oui.
Et on se souvient que, t'as raison, les Jeux Olympiques à Tokyo. On se souvient aussi, les fins de match en play-off importantes. Il était contre les Clippers, où on se souvient qu'il pouvait plus mettre un panier parce qu'il était, cramé. Je trouve qu'on le voit de moins en moins, ça, chez Doncic.
En saison régulière.
Bah, là, après, l'avantage, là, c'est que j'ai l'impression qu'il a pris confiance depuis un paquet de matchs, enfin depuis qu'il y a Kyrie, le trade aussi, qui lâche un peu plus la balle, il délaisse un peu aussi à Kyrie et ça lui permet de se reposer aussi de temps en temps, même si bon, quand il n'a pas la balle, il ne bouge plus, hein, il ne va pas faire une coupe, ou... donc il peut souffler.
Il sait pas ce que c'est en même temps.
Mais j'ai l'impression qu'il a plus confiance en ses coéquipiers et qu'il sent plus à l'aise. Et moi, pour l'avoir croisé à la Hoops, on était à côté, honnêtement, c'est un buffle. Moi, je fais un 97. Il est grand, il est costaud et je pense qu'il a une puissance au corps qu'il utilise un peu à Nando De Colo, sauf qu'ils n'ont pas le même gabarit. Et il doit être tellement puissant à l'épaule, c'est là où il fait tous ces décalages, tu sais, sur les shoots à un pied, sur les fadeaways, tout ça. À mon avis, parce que tu sais, on se pose toujours la question quand tu le regardes, mais pourquoi ils n'arrivent pas à le stopper? Il n'est pas très rapide.
Il est lent, ouais, il est lent, de ouf.
Et en fait,
moi, sur le fait qu'ils n'arrivent pas à le stopper, c'est vrai que c'est un folant. C'est important de dire que c'est un folant. Pour moi, il a une dextérité qu'il arrive à utiliser. Il n'est pas dans la fioriture, mais son dribble, il est d'une efficacité. Il sait exactement pas. Il fait quasiment tout le temps la même chose, mais il sait l'utiliser. Tu fais un petit pas à gauche, il va à droite. Un petit pas à gauche, il va. Enfin, c'est
la. Un petit pas, James Harden.
Voilà.
Il cadre, voilà. Et puis soit il part, soit
ils mettent la balle super bas, ouais, en espérant que le défenseur fasse un petit mouvement vers la balle, et c'est là qu'il joue à l'épaule ou qui vont insister. Et ça marche super bien parce que t'es bas.
Tu la veux.
Et t'as de la puissance pour partir tout de suite. Et ça, ils font très bien.
Et puis moi, j'ai peu de souvenirs. Allez, il y a un dunk d'Andrew Wiggins d'ailleurs qui prend faute offensive, oui, où il le massacre, mais j'ai peu de mémoire comme ça. Dites-moi dans les commentaires et même vous ici, j'ai pas de souvenir de l'avoir vu se faire bouger physiquement. Tu vois, où il a souffert.
Ah, sur les post-ups, déjà, il bouge pas.
Mais même défense.
Et quand il a envie, honnêtement, défensivement, il peut vraiment.
Il est capable. Pour l'instant, j'ai jamais vu faire des trucs de ouf.
Non, mais sur 2-3 actions, quand il est un peu énervé, tu sais, quand il
a. À l'orgueil.
Voilà, disons qu'il n'est pas un candidat pour un défenseur de l'année.
Non,
pour être poli.
Il le sera jamais.
Oui, c'est pas son problème, ça.
Mais il est.
Il régale.
Parce que ça compte pour le titre d'MVP.
Bien sûr. On est dithyrambique. On est dithyrambique, évidemment, sur Luka Doncic. Mais de là être MVP, il y a quand même une vraie concurrence. T'en parlais tout à l'heure. Et la concurrence, aller sur un de ses meilleurs potes, c'est Nikola Jokic, qui honnêtement paraît avoir un coup d'avance pour l'instant et qui s'en va certainement vers son troisième titre de MVP. Regardez les stats. Donc, on a mis Nikola Jokic, évidemment, Shai Gilgeous-Alexander, et on met Jason Tatum parce qu'il est toujours dans la course, avec notamment le meilleur bilan de la ligue.
Et Giannis, il joue au golf. C'est horrible commentaire, les gens qui disent des trucs comme ça. C'est pour la blague, bien sûr.
Mais qu'est-ce qu'on pense de cette concurrence? On sait que Jokic a fait un début 2024 exceptionnel, que Shai Gilgeous-Alexander a été exceptionnel, mais que pioche un petit peu depuis quelques semaines. On en est où là par rapport à la concurrence directe?
Attention à Shai là qui fait des mauvais matchs, on peut le dire.
Enfin, il joue pas en fait, ouais, il peut pas jouer, il est blessé.
Mauvais match, il a mis un buzzer, un game winner à New
York. Il est un peu en deçà de ce qu'il a proposé jusqu'à maintenant. Après, ça reste des stats incroyables. Jokic de l'autre côté aussi, bon, qui fait du Jokic comme d'habitude. Et les bilans, ils sont pas si éloignés que ça. Du coup, s'il pourrait rafler peut-être sur la dernière ligne droite, même si ça me paraît compliqué, je vois quand même les deux autres légèrement.
Il y a 8 matchs d'écart quand même.
Légèrement au-dessus.
Et 7 avec Denver et 7 matchs avec OKC, c'est pas rien.
Honnêtement, on a fait ce débat il y a un mois. Moi, j'avais dit Shai à fond, l'histoire de la jeunesse, la surprise, machin.
Pas d'All-Star.
Oui, pas d'All-Star. Bah, lui non plus, hein, Jokic.
Jokic non plus, oui.
Jokic non plus, oui. C'est vraiment, il y a un mois, pour moi, Shai méritait à fond. Le problème, c'est qu'une saison, ça dure 82 matchs et que depuis 10 matchs, OKC a un peu plus de mal collectivement et qu'ils sont blessés. Donc, soit sur le terrain diminué, capable de mettre des gros tirs sur les fins de match, mais les stats, l'influence, il est vraiment diminué, il est blessé au quadri. Soit il joue pas. Hier, il y a un gros match contre les Celtics. Il y a ni Jalen Williams, ni Shai. Donc, vraiment, malheureusement, je crois qu'il va finir deuxième. Là où Jokic semble avoir une espèce de... Limite, c'est un totem. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, Jokic, pour aller le déloger, il faut que tu sois et meilleur individuellement, ce qu'on peut discuter pour Luka, et meilleur collectivement, ce qu'on ne peut pas, absolument pas discuter pour les Mavs. Donc, je crois que Jokic va gagner son troisième titre de MVP.
On parle des bilans et de la concurrence. Ce qui est marrant, c'est que Nikola Jokic, son deuxième titre de MVP, quand il est MVP, il a le bilan. C'est le sixième bilan de la Conférence Ouest. On se souvient aussi de Russell Westbrook, quand il est MVP pour la seule et unique fois. Il est sixième, lui aussi, de la Conférence Ouest. Là, aujourd'hui, Luka, il est cinquième. Il est qu'à deux matchs des Clippers. Et avec un scénario un petit peu favorable, il peut même finir quatrième.
Je te pose la question, Erwan. Si ils vont chercher l'avantage du terrain, les Mavs, est-ce que tu peux le donner à Luka?
Bah, ça voudra dire que Luka, il est exceptionnel, pardon.
Oui, bah, il l'est, toi.
Mais il l'est.
Mais sur la fin, je parle. Sur la fin, pour gagner des matchs. Et donc, ça va marquer les esprits.
Moi, je crois qu'il peut vraiment réussir à semer le doute jusqu'à la fin. Pour moi, Jokic me paraît indélogeable vers son troisième titre de MVP. Et je pense qu'en plus de la saison de Mammouth qu'il fait, ils vont aussi récompenser le fait qu'il ait été MVP des finales et champion l'année dernière. Il y a quand même... Nico Batum nous expliquait ça dans Undrafted. Il y a quand même aussi, chez les votants aux États-Unis notamment, une espèce de big picture, comme on dit. Et forcément, le titre de l'année dernière va compter. Mais si Luka, il arrive sur un grand run comme ça, parce que Luka, on l'attend, c'est sa sixième saison NBA. On sait que ce mec-là, un jour, doit être MVP. Depuis qu'il est dans la Ligue, depuis qu'il est rookie, on sait tous que ce mec, un jour, il sera MVP. Et quand je vois ce qu'il fait cette année, j'ai presque envie de lui dire, mais en fait, tiens, Kiki, tu mérites.
Ouais, bah, ça se tient. Regarde, je vais vous donner les stats de Luka en carrière. Première année, il est rookie, donc il n'est pas au trophée du MVP. Deuxième année, quatrième, sixième, cinquième et huitième l'année dernière, alors qu'ils ne sont pas en play-in. Donc, ouais, t'as raison, il est amené à être MVP. Je le répète, hein, mais il fait une saison de MVP. Vraiment, Non, mais je veux dire, tu sais, à un moment donné, parfois, il fait une vraie saison de MVP.
On rappelle, 73 points contre les Hawks.
Relou.
Quatrième marque all-time. 50 points, 15 rebonds.
15 passes.
Joyeux Noël. 15 passes, joyeux Noël, les amis. 13 matchs à 40 points ou plus.
Vache.
C'est incroyable. Et 20 triple-doubles, donc, troisième au total derrière Sabonis et Jokic.
Il n'y a pas de doute, c'est juste qu'il y a deux autres monstres à côté. Sinon,
comme souvent.
Ouais, mais non, il y a des années qui sont un peu plus faciles. Mais après, tu as raison, Erwan, quand tu dis Jokic, c'est vrai que l'année dernière, il n'a pas eu. Certes, Embiid le méritait. Derrière, il est champion. Là, il confirme sa saison en étant encore énorme. Il aurait pu un peu se relâcher. Est-ce qu'ils ne vont pas dire, attends, le mec, il est champion l'année dernière, on ne lui a pas donné.
Et la régularité.
La régularité, il joue toute l'année. Est-ce qu'on ne va pas lui redonner un troisième? C'est fort probable.
Vous avez vu qu'il y a un sondage qui est sorti hein, cette semaine avec un sondage pré-vote et sur 100 votants, on donne à 85 premières places à Nikola Jokic, 10 à Shai, Luka une seule, Giannis 2, Tatum 2, je vous donne que les premières places, ça donne un énorme écart de 300 points à Nikola Jokic devant SGA et donc Luka serait troisième. Si ça se confirme, c'est pas encore voté.
Si on se fie à ce tableau, il y a un 400 mètres à faire et Luka il paraît qu'il y a un tour de retard. Et vu qu'il n'y a qu'un tour à faire sur 400 mètres, ça paraît compliqué de le rattraper.
Surtout pour Luka.
Surtout pour Luka. Vous vous souvenez du dernier MVP des Mavs? Facile.
Bah Dirk.
Dirk, quelle année?
2007,
bravo. Ça ferait pareil un deuxième titre de MVP chez les Mavs en une quinzaine d'années, un peu plus de 15 ans, c'est pas rien. On parle de ses stats, mais il y a aussi l'impression visuelle, cette dominance. On a l'impression, il fait partie de cette race de joueurs. J'aime pas ce mot-là, mais là j'ai envie de le dire. Ce joueur racé pour dire. Je domine le jeu. C'est ça plus que les stats, c'est assez rare quand même de voir ces joueurs-là comme ça dire à un moment donné, c'est mon match, c'est mon moment, vous pouvez plus rien faire.
Bah en ça pour moi il ressemble à LeBron, c'est-à-dire que il est très grand, il joue meneur et il décide d'absolument tout sur le terrain. Donc bien sûr, je pense à LeBron des Cavs ou LeBron des Lakers où le jeu, enfin quand il est sur le terrain, tu peux jouer que d'une seule façon. lui avec la balle, du pick and roll, du 1 contre 1. Il a réussi, et Thomas l'a bien dit tout à l'heure, à laisser un petit peu de place à Kyrie Irving. Je sais pas si vous avez vu cette stat passer, mais Luka est le meilleur marqueur de toute la NBA sur les premières mi-temps. Kyrie est le meilleur marqueur de toute la NBA sur la deuxième mi-temps. Ouais. Donc c'est bien la preuve qu'il y a un semblant d'équilibre entre les deux, et c'est ce qui nous fait penser qu'ils ont une chance d'aller loin en playoff cette année. Il n'empêche que t'as raison de dire que c'est un joueur de race, c'est-à-dire qu'il fait absolument tout bien. Balle en main, machin, enfin on va prendre le off-ball, mais balle en main, il peut tout faire, tout décanter, des passes de génie. Il nous régale même sur les avant-matchs à tirer du haut du panier. Là, vous avez vu contre les Warriors la dernière fois, il y a le concours de dimulé terrain avec Steph Curry. Tu sais, c'est un amoureux du jeu,
un c'est un joueur compétiteur.
C'est le Ronaldinho du basket, quoi. Il fait tout bien. Ouais. Après, on verra si ça dure longtemps.
C'est sa force, mais aussi sa faiblesse en même temps, parce que je pense que Dans la concentration, les routines en play-off, c'est un step au-dessus. Est-ce qu'il va être capable déjà physiquement de supporter toutes ces séries si jamais il passe des tours? Mais on sait qu'il est capable de faire des cartons en play-off. Et moi, il y a un gros bémol sur lui. Alors, ça peut paraître anodin, mais c'est son pourcentage au lancer franc. C'est inquiétant pour un joueur de son niveau parce qu'on sait qu'il va avoir des lancers francs en fin de match sur des séries.
Comme le Brown.
Parce que c'est un mec qui est, pour moi, qui est pas concentré, qui joue un peu à l'instinct. Il a pas de routine, je pense. C'est un mec qui doit pas s'entraîner spécialement à ça. Et vraiment, enfin, tu t'en parlais de ces échauffements d'avant-match. C'est un peu, voilà, un peu le cirque. Il shoot de partout. Et quand il arrive au lancer, tu le sens, il est fébrile, hein. À chaque fois qu'il shoot, il finit pas très bien. C'est très tendu. Et ça peut jouer des tours aux Mavs en playoff. Hein.
Il y a une autre info. J'espère qu'elle rentrera pas, en tout cas, dans la course au MVP. C'est que Luka pourrait prétendre au plus gros contrat NBA, passer devant Jalen Brown dans les mois à venir. Ouais. Bon, ça, on imagine que ça ne rentre pas dans la course MVP, mais c'est aussi avoir un statut. À un moment donné, être dans sa carrière, être le joueur le mieux payé de la ligue. Alors, on sait que d'année en année, de toute façon, il y a des gens qui passeront devant, mais être le joueur le mieux payé de la ligue à un moment donné, bon, c'est aussi un statut à avoir, et c'est normal, et ça me choque pas que ça soit Luka.
Non, c'est sûr, il a joué donc 65 matchs, 66 même, peut-être maintenant, donc il est éligible au NBA et au MVP aussi, et donc ça lui permet d'actionner l'année prochaine, en 2025, ce chiffre complètement dingue, de 346 millions de dollars sur 5 ans. On rappelle que Jalen Brown a prolongé pour 304 millions de dollars avec les Celtics l'été dernier. Ça en ferait le plus gros contrat de l'histoire, ça en ferait aussi le premier joueur à 80 millions de dollars sur une saison. Alors bien sûr, dans longtemps, on serait pas loin de 2030. Enfin, ça paraît très très loin. Mais voilà, oui, t'as raison. En termes de statement, t'es potentiellement le meilleur joueur. T'es pas encore MVP, mais tu pourrais signer ce contrat-là. C'est quand même mieux s'il l'est, hein, MVP, au moment où il signe.
Tu m'étonnes. On va prendre deux commentaires, justement, parce que comme chaque semaine, on vous a demandé sur les réseaux sociaux, est-ce que Luka Doncic pourrait shipper le titre de MVP? Shipper, arrête de shipper. Est-ce que Luka Doncic pourra faire la même chose? Je trouverais ça un peu injuste qu'il paie pour son bilan alors qu'il est clairement moins bien entouré. C'est même la définition d'un joueur valuable, avec peu de moyens, quand même, hein, il bonifie des coéquipiers, un talent individuel qui tue. On dirait qu'il joue avec une équipe de N3. C'est important de le dire aussi, il a pour moi la meilleure équipe qu'il a jamais eue depuis qu'il est NBA. Hein.
Oui, clairement.
C'est important de dire, son numéro 2, c'est Kyrie Irving, rien que ça. Le principal problème pour Luka, c'est la concurrence. Un Jokic peut rivaliser en termes de stats, en avant,
en ayant le
meilleur bilan. Si Dallas arrive à aller chercher l'avantage du terrain et que Denver loupe sur la fin de saison et finit
troisième. Le débat serait plus équilibré, mais c'est peu probable.
Belle lecture, en tout cas.
C'est trop loin, ce truc-là. N'hésite pas à me faire une passe, ça marche bien la semaine dernière. Hein,
ouais. J'aime bien les prendre, les trucs.
Non, mais on aime bien quand c'est bien lui aussi.
Moi, si je peux réagir sur le roster... C'est vrai qu'il a pas une équipe de fou. Il a Kyrie en deuxième. Après,
ça marche plus pour moi, ça.
C'est bien, mais c'est pas non plus.
Non, ça marche pas.
Ok. Et sur les bilans, après, moi, ça me choque pas. 5-6 défaites, victoires de plus. Sur 82 matchs, c'est que dalle.
Denver, aujourd'hui, on prend le roster. Tout le monde va dire, ah ouais, mais lui. Oui, parce qu'ils ont rendu ces joueurs.
Oui,
comme ça.
Oui, aussi.
Quand Aaron Gordon, il vient, c'est un poulet sans tête d'Orlando. On dit, oula, il va jamais y arriver. KCP, c'est un super bon joueur de complément. On l'a vu avec les Lakers, mais ils ont réussi à en faire.
Mais là tu parles que du sac majeur, mais après, il y a un banc. Hein. Et là, pour le coup, les Mavs, ils sont au-dessus, non?
Mais moi, j'y me sens.
Ah ouais, d'accord.
Moi, je pense que c'est aussi à un collectif et à un projet de transformer des joueurs moyens, corrects, ou voire moins que ça, en des joueurs références.
Il les a amenés en finale de conférence avec des Maxi Kleber à l'intérieur, des Dwight Powell. Mais
c'est pas ce que je suis en train de dire, Thomas. Je suis en train de te dire que quand je vois Denver qui est champion, c'est un excellent exemple pour Dallas, c'est qu'ils ont transformé des joueurs qui aujourd'hui sont des références pour aller gagner des titres.
De toute façon,
donc c'est pas juste, j'amène des joueurs qui sont déjà terminés.
Ah, je te parle pas d'amener que des superstars, mais voilà.
Pour moi, honnêtement,
c'est un. Pour moi, Dallas, ils ont des petits shooters.
Donc, c'est pour ça que moi, l'argument pour moi ne marche pas très bien. Tiens, on va se faire un petit kiff. La cote de Dallas pour aller en finale cette année sur Winamax. Elle a combien, les gars?
Finale
NBA. NBA. Donc, vainqueur de l'Ouest. Donc, imaginez une finale de conf contre, contre nos amis des Nuggets.
12.
Et bah, 12, oh, ah bah parfait, bravo. Oh, tout pile. Oh,
bravo.
Qu'est-ce que c'est? Ils sont combien de comptes? Denver, les Clippers sont deuxième. Le Thunder à 7. Minnesota à 10. Avec Phoenix à 10 d'ailleurs. Donc Dallas à 12. Ils sont sixième. Meilleure chance d'aller en finale NBA. Ok. Il y a quand même il y aurait des séries assez incroyables.
Ouais, ça va être fantastique. On rappelle à Winamax, notre partenaire. Et donc, si vous voulez participer, jouer, vous amuser avec des paris autour des playoffs qui arrivent, voilà ce qu'on vous propose.
Tu le sais, nous sommes soutenus par Winamax, donc viens jouer avec nous sur tes sports préférés. Si tu aimes le basket américain et même tous les autres baskets, eh bien ça se passe chez les copains de Winamax. En collaboration avec Wina, nous avons cette offre de bienvenue avec le code FT10 et le lien en description. Lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé jusqu'à hauteur de 100€ et on t'ajoute même 10 balles en bonus. Important, le jeu est strictement interdit aux mineurs et peut comporter des risques, donc on ne joue que des sommes que nous sommes prêts à perdre.
Alors, puisque Thomas, on est en train de parler, de débattre de qui sera le MVP, on a une nouvelle à vous annoncer. Je suis très content de cette nouvelle chose. Qu'est-ce qu'on propose à nos gars qui nous suivent? On va interagir enfin avec vous.
Oui, si on veut. C'est la première année où on va donner des trophées First Team. Alors, quand tu dis des trophées First Team,
c'est Michael Scott qui fait ça avec Dunder Mifflin.
Exactement. On va élire le MVP de la saison, tous les trophées que vous connaissez. On a rajouté aussi le joueur le plus kiffant de la saison et le joueur le plus décevant de la saison. Donc, ce sera à la fin de la saison régulière, justement, comme tous les awards. Ce sera la semaine prochaine. On vous mettra un lien, vous pourrez participer et ensuite, on se fera une libre
antenne. Gordon Awards.
Pardon?
Gordon Awards.
Gordon Awards, tout à fait. Et on pourra comme ça donner les trophées. Donc, si vous voulez voter pour Luka Doncic MVP, il faudra voter en masse pour lui. Et comme ça, on pourra lui envoyer un mail en lui disant bravo Luka, t'es MVP en France.
Il sera content, je pense.
Ah, il sera ravi. Ouais, il sera ravi. Donc voilà, la semaine prochaine.
Suivez bien nous sur les réseaux sociaux. Je suis très content qu'on fasse ça cette année.
Ouais, c'est tout le monde pourra voter. Évidemment.
Et puis, on débattra de ça aussi. On regardera les résultats dans la libre antenne, certainement. Pas de bon first des shows sans palette. Parce que si, pas de palette.
Pas de palette.
Pas de palette. Thomas, cette semaine, palette défensive autour des grands favoris de cette saison avec les Nuggets. Ce sont les Boston Celtics qui brillent en attaque, mais qui brillent aussi par leur défense. Et on va voir toutes les différentes options et les choix pris notamment par Joe Mazzulla.
Et on va voir un joueur au centre de tout ça. C'est bien sûr le grand Kristaps Porzingis. Allez, on y va tout de suite parce qu'on a 4 vidéos à regarder avec beaucoup de choses différentes. On va commencer sur un match de début de saison. On est loin, il y a encore Mitchell Robinson et Julius Randle sur le terrain. C'est contre les Knicks. D'abord, on regarde la défense sur Julius Randle. Là, c'est Derrick White. Hein, parmi les forces défensives des Celtics, il y a bien sûr Derrick White. Là, l'attention donnée et portée par Porzingis, qui est toujours bien placé dans l'aide. L'incroyable défense de Derrick White sans faire faute. Côté ballon, on voit Tatum qui aide, qui reprend, qui va pas donner une aide suicidaire là pour donner un tir à Quentin Grimes dans le corner. Et là, il est grand, Porzingis, et il est parfait dans ce rôle. Il va au contre. Une belle défense sur les premières intentions des Knicks à Rouen.
Attitude, discipline, voilà. Honnêtement, ils ont rien inventé là-dessus. Mais comme tu le dis, il y a un aider reprendre côté ballon. Ça, c'est tout ce qu'on veut pas voir, les aider fous côté ballon pour donner des tirs.
À tout niveau, on les voit, Erwan.
On tient le duel avec une magnifique attitude. Derrick White, il est plus petit que Julius Randle. Donc, physiquement, ça doit pas être simple. Mais il s'oppose. C'est ce que font très bien aussi les Celtics. Et puis derrière, grand tonton, en second rideau, comme fait Rudy Gobert. Très bien. On le met pas Porzingis tout le temps sur les premières options. On le met surtout sur du second rideau. Moi, là, il y a rien de rare. Mais par contre, c'est tout le monde a la bonne attitude et la bonne discipline.
Il y a rien de rare. On regarde la deuxième vidéo et Thomas, tu vas pouvoir nous dire ce que tu en penses. Encore une fois contre les Knicks, cette fois-ci c'est à New York et on va suivre ce système plutôt long pour aller retrouver, regardez Jalen Brunson, on va prendre le temps de regarder tout ça, la bonne défense, il est repoussé, aïe aïe aïe, touché, comment va-t-il faire? Que va-t-il faire? Il va tirer, il va rater surtout. On y retourne au tout début de l'action, donc entre les Celtics et les Knicks. Jalen Brunson, fantastique joueur bien sûr, défendu par Jrue Holiday, fantastique défenseur. La première passe ici pour Dante DiVincenzo et on va suivre le déplacement. D'ailleurs, d'abord, on va couper la première passe côté de Jrue Holiday. Elle est impossible, donc DiVincenzo va retrouver Hartenstein et on va suivre ensuite le duel entre les deux joueurs. Une petite passe à terre. Non, Jrue Holiday veille au grain grâce au CAD et toujours la vision de jeu à l'opposé, que ce soit Porzingis ou Jalen Brown. L'action se poursuit. On va suivre là-bas le Steiger vertical pour remonter. Ça, c'est le système qu'adore faire Thibodeau pour rendre libre Jalen Brunson. Et on voit l'attitude et même le comment dire, le courage, ouais, la réduction de distance si tu veux, pour aller embêter le main à main. Et Jrue Holiday va permettre à son équipe de défendre plus que 8 secondes. Ils sont loin du panier, très très loin. Une dernière défense avec Porzingis qui sur le drop coverage va être malin. On voit l'aide des joueurs Brown et Derrick White. Et le tir que peut mettre, hein, bien sûr, Brunson, mais il est sous pression de l'horloge des 24. Ça donne une très bonne défense, une très longue et très bonne défense des Celtics. Tu en penses quoi, Thomas,
de bah, encore une masterclass de Holiday, hein, qui fait une mine de rien, c'est une défense classique. Il suit dans les écrans. Voilà, il se laisse pas prendre. Moi, ça me rend ouf quand les mecs, ils rentrent dans l'écran en espérant, je sais pas, transpercer le mec, peut-être, je sais pas. Le seul truc que tu vas faire, c'est prendre du retard. Là, tranquillement, il le suit derrière. Forcément, tu peux faire cette défense quand t'as confiance en tes coéquipiers parce que sinon, c'est impossible. Et là, après, il le suit bien avec le grand Porzingis derrière. Tout est bien fait à la perfection. C'est pour ça que les Celtics sont là aujourd'hui, hein.
Ce qui est intéressant dans cette défense-là, et on l'a vu tout à l'heure aussi, c'est qu'il touche les mecs. Ah, défendre, c'est toucher. Et, là, on voit Jrue Holiday, il le touche, Jalen Brunson. Et puis, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont responsabilisés sur leur duel. Ils changent pas à outrance.
Non,
et Joe Mazzulla l'avait dit dans le podcast de JJ Redick, il veut pas, lui, changer à outrance. Parce que, finalement, changer à outrance, quand t'as une cascade d'écrans ou plusieurs écrans qui s'enchaînent, change. Et en fait, t'es jamais. Et là, ouais, tu ne touches plus les gens. Et finalement, ça devient du changer pour mettre à l'aise le défenseur. C'est pas ce qu'on veut. Là, il y a un vrai challenge qui est relevé par Jrue Holiday, qui va, encore une fois, je dis, toucher. On défend collectivement, mais on reste dans son duel et dans son match-up. Et ça, moi, ça, je trouve que c'est très intéressant.
C'est important d'avoir des joueurs comme ça dans les équipes qui disent hey, « les gars, Brunson, je vais le suivre. Restez sur le qui-vive. Voilà, moi, je m'en occupe. Je vais bien défendre. Les autres sont là. OK, bon, il va faire le taf. Nous, il faut qu'on soit là pour lui si jamais il y a un écran, tout ça. » Et on voit qu'ils ont tous confiance les uns aux autres.
Et on peut ajouter à ça que Jrue Holiday, c'est de la lecture aussi. Il connaît exactement le système qui est annoncé. Il sait qu'il y a une première page, il la coupe. Il sait qu'il y a un backdoor, il la coupe. Ouais. Et il sait aussi que ça va remonter. C'est aussi ça, les bons défenseurs. Allez. Troisième action qu'on va regarder ensemble. On va changer un petit peu d'équipe, hein, déjà. Et on va regarder les choix de Joe Mazzulla, les trucs qu'on aime bien, les petits sur les grands et la bataille intérieure. Allez, on y retourne. Donc, dans le début du match, aussi c'était en début de saison avec Tyrese Maxey et donc Joel Embiid. Tyrese Maxey est donc défendu par Derrick White. On regarde encore à l'opposé, Porzingis loin du ballon, les ailiers sont plutôt, allez, peut-être pas en overplay mais pro de leurs joueurs, et c'est bien Jrue Holiday qui défend sur Joel Embiid et il va l'embêter. Là, les petits, le centre de gravité, il passe devant, il est là avec les bras et sa bataille, et on voit Joel Embiid qui regarde à l'opposé, parce que ça c'est travail de l'entraînement aussi, hein. On essaie de, si c'est la première passe est battue, de remonter à l'opposé. On voit Porzingis qui donne beaucoup d'aide. Là, les Sixers font le bon choix. On va jouer à l'opposé, puisqu'il y a Tobias Harris qui est tout seul, et Porzingis va faire cet effort, d'ailleurs qui ne sert pas à grand-chose, hein, disons-le honnêtement, mais ça montre encore une fois que les joueurs ne relâchent pas la pression et continuent leur effort.
Une bonne défense, pour moi, c'est aussi faire des choix. On ne peut pas défendre sur tout le monde. Il faut faire des choix. Et clairement, là, le choix que fait Boston, c'est on met un petit sur un bide, on passe devant, on vient fermer pour la passe lobée, et bien derrière, on va donner un tir à l'opposé. Alors, en général, ils vont cibler des joueurs à des pourcentages un petit peu moindres que Tobias Harris, mais là, ils font un choix de dire, OK, on va donner un tir à trois points à l'opposé, mettez-le, on s'adaptera, mais là, en tout cas, ce qu'on veut pas, c'est se faire punir par un bide, qui va quand même, sur d'autres actions, les punir, mais en tout cas, voilà, on revient à ce que veut faire Joe Mazzulla, il veut pas faire des choses traditionnelles, il veut surprendre, il veut être proactif, exactement, et ça se voit avec ce choix fort de mettre un arrière sur un pivot ultra dominant.
Ça arrive souvent, souvenez-vous l'année dernière, les Lakers sur les Nuggets, quand au début c'est Anthony Davis qui défend sur Jokic, et au bout d'un moment c'est Rui Hachimura et c'est mieux, parce que si t'as un deuxième qui peut venir en aide, en plus c'est un bon contreur, ça peut tout changer quand il y a un mec qui vous détruit. Dernière action, et là on change complètement, on va aller sur une zone presse. Regardez, incroyable, en NBA c'est quand même vachement rare de voir ça. On est contre les Knicks une nouvelle fois et on va dérouler cette action qui est plutôt bien attaquée de la part des Knicks jusqu'à ce que Julius Randle ait la balle.
Tu nous manques, Julius.
Allez, on y retourne parce que c'est la défense qui nous intéresse sur cette action. On va dérouler jusqu'au bout. Bah oui, avec un beau tir. Juste, on est toujours pas revenu. Ouais, bah,
il arrive, il arrive.
Il est terrible.
C'était le début de saison, ça. Ouais, il était encore dans ses mauvaises attitudes.
On regarde donc, Kukley va remonter la balle et c'est Pritchard qui défend très très haut. Sam Hauser aussi qui vient faire une petite prise à deux. Et on regarde bien sûr toujours la recherche des triangles et des carrés lorsque vous défendez ou même attaquez. Kukley va essayer de battre son adversaire. Il ne peut pas, hein, bien sûr, Andri, puisqu'il y a deux joueurs face à lui. Impossible de passer. Il dribblote. Et la défense suit le joueur. Le but, c'est pas forcément d'intercepter. Toujours ce losange là, un petit peu, ce carré un petit peu difforme pour défendre. La bonne passe de Kukley, hein, qui est à noter. Clairement, c'est le bon choix puisqu'il est tout seul. ça me tue. 4 versus 2, bah oui, on pourrait penser qu'une fois qu'Hartenstein a la balle, il y a peut-être un 2 contre 1 à jouer. Mais la défense s'est bien regroupée. On regarde ensuite, on est sur une zone match-up, donc on défend un petit peu comme on peut. Sam Hauser est sur Hartenstein, mais il n'arrive pas à lui faire la passe. Peut-être parce que Julius Randle ne voit pas bien l'angle, encore une fois. Il est terrible. Il est terrible. Et on finit sur du 1 contre 1. Et vous savez que lorsqu'il y a à leur force sur un terrain, le 1 contre 1 n'est pas possible.
Mais surtout, ce que je vois, moi, c'est l'effort de Sam
Hauser. Il est terrible, Randle. Il est terrible.
T'as raison. C'est vraiment un match de début de saison. Et Randle, on sait qu'après, il y a eu un switch. Mais là, on regarde. Moi, ce que je vois, c'est l'effort de Sam Hauser. Voilà. Tu vois, faire l'effort du grand, du petit qui passe devant le grand pour pas être pris sur le match-up, sur le mismatch. Mais voilà, ça, c'est pour moi, c'est ce qui fait la grande force des Celtics, c'est qu'à un moment donné, on parle tous le même langage. Si les petits ont fait l'effort de passer devant les grands, et regarde derrière le bordel que ça fout.
Parce qu'on a
et
confiance.
Ça fait le ballon gagner. Exactement. Ouais. Tout le monde, il y a pas un mec, on vient de faire 4 vidéos là de défense, il y a pas un mec qui triche.
Non, c'est clair.
Et Sam Hauser, c'est pas Tony Allen, hein,
bien sûr.
Mais il fait les efforts.
Attention, respecte Sam Hauser.
Non, mais je le respecte.
C'est ce que dit toujours Stephen, c'est que peut-être qu'un contre un, il pourra pas défendre sur un mec, mais dans le collectif, par contre, tu pourras toujours trouver la bonne lecture, le bon moment, le bon mec sur qui défendre, et Sam Hauser, il était parfait.
Bravo Thomas pour cette peine, on s'est régalé. Et bravo à Léo, hein, qui est notre monteur de talent et qui nous fait chaque semaine ces petites vidéos qu'il anime à la perfection.
T'as
bravo.
Un tacticien de mais tu sais qu'il cherche un poste en N3, hein.
Mais oui, bien sûr. Il a appelé la Fédé, il voulait passer les diplômes, ils l'ont directement donné le DE.
Est-ce qu'il sera dans le coaching staff de façon collée cet été?
On l'espère. En tout cas, j'ai envoyé le CV. En tout cas, Vincenzo, si tu l'as au téléphone, n'hésite pas. Ça vient de ma part, c'est la famille, c'est la maison. Thomas, on parlait de défense collective. Mais là, je peux rien pour toi, ça sera individuel parce que c'est le quiz. Hein.
Allez, qui dit fin d'émission dit quiz. Et qui dit quiz dit suspense énorme.
L'acteur d'en fait entrer l'accusé alors. Hein.
Oui, j'ai des dossiers. Non, il y a un gros suspense autour du MVP, mais aussi autour du MVP du quiz. Cette année, j'ai vu les votes. Pour l'instant, c'est Erwan qui est devant.
Ah bon ?
Vote du public.
C'est pas moi ?
Toi, si t'es dans autre. 1% dans les sondages. Mais tu peux créer la surprise aujourd'hui, mon Thomas. Quelques questions de rapidité, comme d'habitude, pour se mettre en jambes. Et qui suis-je ?
Allez, go.
On est bien, question de rapidité, ça va vite du tac au tac. C'est parti. Quel rookie a joué le plus de minutes cette saison ?
Chet Holmgren.
Un partout. Citez-moi un joueur.
Chet Holmgren.
Autre que Westbrook et Jokic qui a gagné le MVP sans atteindre les 50 victoires.
Wow.
Ah.
Il y en a 13, hein. Donc,
d'accord.
Dans les vœux, il en reste 11 quand même.
Kobe.
Kobe, non, c'est jamais arrivé.
Oh, c'est dur ça. J'ai aucune idée.
Il y en a 13 en plus, ça fout la haine.
50 victoires ?
Ouais, moins de 50 victoires.
C'est vieux ?
Iverson.
Il y a du récent. Il y a du récent.
Très dur.
Il n'y avait pas de Iverson, je peux vous donner.
Steve Nash ?
Non, il y avait Joel Embiid qui l'a fait. Il y avait LeBron James qui l'a fait. Il y a Moses Malone deux fois. Karl Malone, Bill Walton, Kareem Abdul-Jabbar, Bob McHale.
Bravo les gars.
Ouais.
Allez, on se relance avec quel joueur a tenté le plus de lancers francs sur une saison ?
James Harden.
Cette saison, pardon. C'est Harden. Bien joué. Non, cette saison, par contre.
Embiid ?
Sur une saison, c'était évidemment.
Embiid, non, il a raté trop de matchs. LeBron, non.
Un mec qui va beaucoup sur la ligne.
Sans blague.
Oh, le super.
Voilà, discata.
Bon. Un mec qui va.
Non,
Et qui est pas fou au lancer, d'ailleurs.
Lucas ?
Non, c'est Giannis Antetokounmpo.
On est nul.
Quel joueur le plus de points en sortie de banc cette saison ?
Malik Monk, bravo. Oh, bâtard.
À qui Tyrese Haliburton a fait le plus de passes dé dans sa carrière ?
Tobias Harris.
Miles Turner.
Hein ?
Non,
De'Aaron Fox. De'Aaron Fox.
J'ai n'importe quoi.
Non.
Sabonis.
Buddy Hield.
Sabonis.
Qui a fait le plus de passes décisives ?
C'est ça qui est incroyable.
Qui a fait le plus de passes dé en carrière ? À Kevin Durant.
Westbrook,
bien sûr.
Oh putain, j'étais à
Qui a fait le plus
Garnett,
de passes dé en carrière à Kobe ?
Derek Fisher, ouais.
Allez, il en reste deux. Donnez-moi un Hall of Famer que LeBron a battu en finale NBA.
Duncan.
Tim Duncan, bien sûr. Il y avait aussi Ginobili et Tony Parker. Et dernier, quel coach des Wizards ?
Ansel Junior.
Non, il est junior. Non, c'est plus lui.
Ah bon ?
Non, il est monté dans les bureaux, là, putain.
Randy Whitman ?
Oh non.
C'est un mec qui est dans le kiff. C'est Brian Kiff, voilà.
Mais c'est nul.
C'est
vraiment Brian Kiff.
Il s'appelle Brian Kiff.
Ouais, et donc lundi, c'est un mec qui est dans le kiff.
Ouais.
Bah, ça peut expliquer les résultats aussi. Hein.
Non, ça peut expliquer
c'est un des pires
choses.
Quiz qu'on ait jamais fait, je préfère vous le dire.
Vous avez pas été très bon dans la mise en marche.
Ouais, c'est
de
deux fautes, t'as raison.
On part sur le...
T'étais meilleur au quiz géographie capitale tout à l'heure.
Capitale de
Costa Rica.
Madagascar.
En arrivo.
Imbattable là-dessus.
Imbattable.
Ouais. Jérémy. Hein.
On la révise pas mal celle-là. Allez, je suis né le 10 novembre 1987. J'ai donc 36 ans, je suis pas vieux. Et je ne suis plus sur les parcs NBA après 14 saisons, sans jamais avoir gagné de titre. Mais, commençons par le commencement. Je passe par la fac. Deux saisons.
Laquelle ?
Arrête, Erwan, laisse-le. Tu nous stresses, là, avec tes trucs. Deux ans à la fac.
De 2006 à 2008.
Oh la vache.
Et je me présente à la draft 2008, où je serai sélectionné au premier tour. Je débarque dans une franchise à l'Est. Je donne pas plus d'indices.
Ah ouais, d'accord.
Je resterai là-bas 4 saisons, devenant titulaire au fil des années, une chose très rare dans ma carrière. En 2010-2011, je tourne à 14 points et 6 passes, et mon nom ressort parfois pour le MIP, en vain. En 2012-2013, je pars de cette franchise qui m'a drafté, qui d'ailleurs depuis a changé de nom, pour débarquer chez les Pacers.
Ok,
qui a changé de nom, ok.
Al Jefferson ?
Non.
Fuck.
Après avoir secondé Raymond Felton en début de carrière, je suis désormais le backup de George Hill à la main. Je fais partie de la belle équipe des Pacers et de son run de 2013.
Jamal Tinsley ?
Non.
Et de son run de 2013 jusqu'en finale de conférence. Une défaite en 7 matchs face au Heat et un trade dans la foulée pour moi.
Ah, je l'ai. Oh là là, il le dit pas, le mec, il l'a pas hit dans sa bouche là.
Je finirai par m'y habituer.
Mais oui.
Il vaut mieux puisque de 2013 à 2016, je vais jouer dans 5 franchises différentes. À noter mon beau passage à Chicago en 2014 où je joue 30 minutes en moyenne. DJ Augustine, ça part ici.
Et pourquoi il veut pas sortir ?
Bravo,
ce con. J'ai que lui en tête. J'ai que lui en tête.
Jour, on est mal.
Il veut pas te sortir.
Ça c'est une victoire. C'est une victoire à la Mannschaft. Tu vois, tu subis, t'es là et puis boum, tu le trouves tranquillement. Oh, maîtrise, expérience du sujet. Didi Augustine, parfait.
J'ai que lui en tête.
Quelle fac? Texas, hein. Comme ça pour les amoureux comme ça.
À picorer
un apéro comme ça. D'ailleurs, on va aller prendre l'apéro parce que ça va te redonner le moral. Allez.
Détruire. On pas les couilles.
On se calme.
Non mais arrête, il sort pas de ma bouche.
Dans le micro, s'il te plaît. Comme Mia Khalifa, on parle dans le micro.
Bon. Elle fait des podcasts.
Elle fait des podcasts. Voilà, c'est pour ça. Elle
fait des podcasts. Tu fais bien la haine.
Je mets jamais le son, perso.
Embrasse-moi, grand fou.
Merci Thomas.
Merci. Tu reviens quand tu veux.
Tu reviens,
c'est quoi la semaine prochaine? Parce qu'apparemment, t'es un habitué ou...
Bah écoute, je me prépare pour les JO là. C'est...
Ah voilà, parce que tu seras avec.
Attends, le gars m'a fait une phase tout à l'heure. J'ai envie de le
juger avec.
Non, non, vous êtes drôle. Les deux, vous me dites pas la même chose. Donc on fera une réunion à 3, ce sera plus simple.
Mais hier, j'ai appris qu'on allait faire des émissions le matin.
Non, mais lui, il me raconte des trucs du soir, l'autre le matin.
On va faire les deux.
Ah, mais je savais pas.
Alors, sans trahir de secret, sachez qu'on va être là tous les jours pendant les JO à parler de basket, midi, soir, enfin tout le temps. Tout le temps. Donc
on est là.
Il a pas envie de bosser. Il m'a dit qu'il savait. Il m'a dit qu'il serait en vacances.
Duplex de Léon.
Ah, vas-y, faut pas prendre. Duplex de Léon, frère. Il y a pas d'internet à Léon.
Ils ont mis la fibre depuis 2 ans.
Arrête.
Oh, c'est fada ou quoi?
On embrasse les parents Larouquise d'ailleurs.
Ouais, oui.
Et on veut venir à Léon. On a envie de se faire un grand week-end faire sim à Léon.
On en fera un.
Ah, qu'est-ce qu'on est bien là-bas, bord piscine.
Allez, Erwan. Hein.
Allez.
On passe à autre chose.
À demain, huis clos. Oh là là. Demain.
T'as balancé le nom de l'émission de foot parce que c'était une surprise.
Le coup.
Il fallait rester jusqu'au bout. Bravo à vous.
Et le présentateur, ça sera Tom Servino qui sera promis meilleur que sur le coup.
Ah ouais, regarde, ça envoie tout, regarde.
Ça montre à quel point il va être excellent parce qu'il est très bon sur le quiz.
Demain,
oui, on va parler PSG, on va parler Marseille, ça sera dimanche, on va se régaler, on est ravis que l'émission foot revienne. Merci à Polo, merci à Léo, merci à Imen, merci à Jérémy qui a pas amené de cookies aujourd'hui, donc
merci à lui.
Convocation dans le bureau.
Et pas merci à la maman de Léo, faut arrêter.
Ouais, la maman de Léo, faut arrêter de nous envoyer des grandes boîtes de Haribo. Il y en a 3 hier, on en a détruit une en je pense 2 minutes 30. Moi, je mange pas des carottes râpées et du poulet. Pour manger des bonbons l'après-midi.
Ah, voilà. Ça, c'est, tu peux pas avoir le corps de stripteaseur cet été dont tu rêves et manger des haribos.
Magic Mike, frérot.
Allez,
à lundi.